vendredi matin. J'espère que tout le monde va bien malgré cette neige ce matin, assez surprenante. Antoine, Max, comment ça va ce matin?
Hey, ça va bien toi, Jeff?
Ça va super bien. Max, de retour bien. Avec nous, ben ouais.
Oui, de retour avec vous autres, les boys, je suis content d'être ici ce matin. Oui, ça faisait un petit bout. On a du beau stock à discuter en cette belle journée où il neige, en effet. La bonne nouvelle, c'est de la neige fondante puis va mouiller. Fait qu'on va voir notre gazon dans les prochains jours. C'est juste qu'il ne faut pas trop piler dessus parce qu'on va renfoncer. C'est
tout. Ouais, disons, il bouille chez nous. Je suis quasiment prêt à aller jouer au base. Là. Je suis presque décollé, là.
Bon, c'est la fin de la chronique.
Je veux juste vous dire. Hier, en fin de semaine, je suis allé avec les boys. Les boys voulaient jouer au baseball dehors, tu sais, puis on se lance la balle, on a bien du plaisir, on fait ça dans la rue, tu sais, puis idée de génie. Ah, il n'y a plus ben de neige dans la cour, hein, on va aller dans la cour. Hey, premier pas, ça a l'air sec, tout est beau, rentre, puis j'ai renfoncé. Fait que message d'avis public, les terrains de baseball, allez pas dessus tout de suite parce que les employés de la ville vont avoir à retravailler énormément sur le champ extérieur si vous y allez. Fait que touchez-y pas, s'il vous plaît, pour encore quelques jours, quelques semaines.
Chronique, gazon et température terminée.
Ouais.
Max, je te lance tout de suite. On va aller dans le vif du sujet. Ce matin, je me suis levé. J'ai pas vu l'article. Il est sorti hier, mais j'ai vu ce matin l'article de Martin Leclerc de Radio-Canada sur le centre complexe Robillard, l'ABC, Baseball Québec. Je te laisse nous parler de ça un petit peu.
Oui, bien, pour ceux qui n'ont pas vu, finalement, Martin Leclerc m'a appelé il y a quelques jours, à quelques reprises. Martin a suivi les activités de l'Académie de baseball du Canada depuis 32 ans. Il était là au premier balbutiement. Il était là, il suivait la gang avec Richard Raymond. Donc, a vu l'évolution de tous nos joueurs, nos espoirs à travers le Québec, année après année. Et Martin m'a approché, m'a dit « Max, j'ai entendu des drôles de choses là, par rapport à où l'ABC allait s'entraîner. Là, il paraît que vous auriez peut-être plus de place à Claude Robillard. » Fait que, en effet, j'ai eu une belle discussion avec Martin. Je lui ai expliqué un petit peu, j'ai donné l'heure juste. Puis ce qui est sorti un petit peu dans son texte sur Radio-Canada, évidemment, c'est que l'Académie de baseball du Canada, puis je vais dire volet masculin, parce que le volet féminin dans des infrastructures exceptionnelles à Trois-Rivières, s'entraîne à Claude Robillard depuis ses débuts, donc depuis 32 ans. Avec des modifications, peut-être aux philosophies ou aux manières de fonctionner, année après année, le temps d'utilisation du centre diminuait. Puis, évidemment, quand la pandémie a frappé, ça a été désastreux. Ce qui fait que aujourd'hui, puis c'est juste pour pas que ça soit trop long pour tout le monde, allez voir l'article de Martin pour bien comprendre. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Académie de baseball du Canada est toujours, on est toujours un peu en mode survie du côté, puis je vais le dire, du côté infrastructure, parce que je pense que depuis toujours, puis là encore plus maintenant, l'encadrement des jeunes est, je pense, exceptionnel. Les entraîneurs qui s'occupent d'eux, les professionnels, l'équipe de soutien intégré, la planification, les réflexions qu'on a reliées aussi avec la science font qu'on développe super bien nos athlètes, mais encore une fois, dans des infrastructures qui sont déficientes. Puis, tu sais, c'est pas une farce. On est dans un endroit, en effet, qui s'appelle le ministère du cricket et des sports itinérants. Et on apprécie énormément d'être là-bas parce qu'il y a du gazon synthétique, il y a des filets, on peut frapper des balles, on peut faire des confrontations, mais ça reste quand même un problème. Un sport aussi populaire, enraciné depuis si longtemps chez les Québécois, où est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir un centre d'entraînement de haute performance, de haut niveau pour nos athlètes, c'est un enjeu. Puis je veux revenir sur le fait qu'on a eu des belles années de collaboration avec le complexe Claude Robillard. Quand l'espace, évidemment, est tout au complet, est utilisable, on est capable de s'arranger, mais c'est pas un complexe de baseball. Puis pour finir là-dessus, évidemment, les 5 prochaines années, ça va servir à rénover le complexe Claude Robillard qui avait été construit pour les Olympiques. Donc, vous l'avez vraiment un bon bout déjà. Alors, le nombre d'heures, les plateaux diminuent. Donc, la gang de l'ABC présentement est en train de finaliser des ententes pour qu'on aille ailleurs. Mais sur l'île de Montréal, des endroits d'exception, des endroits où on pourrait entraîner des joueurs de baseball. Il n'y en a pas pour 50, pour 60 athlètes en banlieue de Montréal. Ça se travaille présentement. Il y a quelques petits projets, mais en date d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Puis, on ne sera pas de cachette. L'endroit le plus beau au Québec pour entraîner les joueurs de haut niveau présentement, c'est Québec. Fait qu'il va falloir faire l'analyse de dire peut-être que dans les prochaines années, s'il n'y a rien qui bouge dans le coin de Montréal. Puis quand je dis dans le coin de Montréal, je parle encore de la communauté métropolitaine. On a appris ça pendant la pandémie, ce mot-là. Là. Je parle de ce secteur-là. Si à un certain moment, on n'est pas capable de se trouver un endroit où on entraîne nos joueurs, il va peut-être falloir penser à les envoyer à Québec ou dans un autre milieu. Puis là, je parle de baseball, mais on pourrait avoir la même discussion avec Chantal Gagnon, la directrice générale de Softball Québec, puis Stéphane, son président, qui eux aussi sont logés au complexe Claude Robillard et qui vivent les mêmes enjeux avec leur programme féminin. Donc, on a encore un bon défi devant nous. On n'a pas une grosse équipe à Baseball Québec, je l'ai mentionné dans l'article, tout le monde est bien occupé, tout le monde est passionné, fait qu'un gros dossier d'infrastructure comme ça, c'est un peu difficile à amener. Mais clairement, s'il y a des gens dans les alentours, dans la communauté métropolitaine qui ont le goût de lever la main puis de rêver avec nous à quelque chose d'exceptionnel pour nos jeunes joueurs de baseball, ben on va le prendre.
Max, ça serait quoi ton idéal? Parce que on le sait, ça prend quand même beaucoup de belles infrastructures pour un sport de haute performance comme ça. Ça serait quoi ton idéal à toi, ancien joueur de baseball et maintenant DG de la Fédération?
Ben, si je me permets de rêver, il y a 2-3 trucs qu'il faut prendre en considération. Première des choses, il y a l'espace qu'on va appeler baseball, donc un endroit où est-ce que nos jeunes sont capables de se développer comme joueurs de balle. Donc, c'est évident qu'un gazon synthétique pour pratiquer dans un pays comme le nôtre, où est-ce qu'à partir du mois de fin, même, je dirais, mi-octobre, on doit rentrer à l'intérieur.
Ouais.
C'est sûr, pour moi, c'est un must. Des cages de frappeurs de qualité, des monticules de qualité aussi. Après ça, l'intégration, toutes les technologies qui nous permettent de prendre les données statistiques sur nos joueurs pour les améliorer. On en a présentement, on travaille avec Rapsodo, on travaille avec Blast, mais à partir du moment où on a un endroit qui nous appartient, on peut y aller avec des technologies qui sont encore de plus grande qualité, qui restent fixes et qui peuvent nous permettre justement de prendre des données sur nos joueurs. Fait que, tu sais, du côté baseball, c'est ça. Du côté performance, ben c'est sûr qu'on aimerait être dans un endroit où est-ce qu'on a une salle de musculation qui répond au défi d'entraîner des athlètes de haute performance. Donc, de pas juste avoir un bench press puis une machine pour faire du leg press puis un set de dumbbells, là, mais tu sais, avoir des machines d'entraînement de bonne qualité. Et évidemment, ben, le dernier point qui est hyper important, c'est que ces jeunes-là vont tous à l'école. Donc, on doit les mettre dans un environnement où est-ce qu'on a accès à des écoles secondaires, autant français qu'anglais, des cégeps, des universités, tu sais, tout le setup. Fait qu'il faut rester dans un grand centre si on veut y arriver, si on veut être capable d'offrir tout ça. Dernier point par rapport à ça, ben c'est évident que à l'Académie de baseball du Canada, je souhaiterais un jour qu'on ait des familles qui accueillent nos athlètes de 16, de 17 ans en pension, au lieu de les envoyer pour la plupart en appartement. Je pense que tout le monde présentement est capable de fonctionner en appartement. On prend soin des athlètes, on leur explique, on les amène même avec nos nutritionnistes, si vous regardez les médias sociaux, dans des épiceries pour apprendre à faire un petit peu leur épicerie, mais de les mettre dans une famille en pension serait probablement l'idéal. Fait que c'est un peu à mes yeux ce qui serait l'endroit idéal pour entraîner nos athlètes, Antoine.
Ouais, puis j'ai personnellement la chance de côtoyer la gang de l'ABC, toi aussi, Max, régulièrement, quotidiennement, hebdomadairement, puis on réussit à faire des petits miracles. Les coachs, les directeurs sont tellement dédiés au succès des joueurs. On place des joueurs aux États-Unis avec un complexe, comme tu viens de parler, là, dans tes rêves. Je peux juste penser à ce qu'on pourrait faire avec ces jeunes-là parce que, évidemment, comme Marc-Antoine a dit au dernier show, ils n'ont pas besoin de ça, un complexe, pour être bon, là, tu sais, pour performer, mais c'est sûr que ça amène un petit quelque chose, puis tu sais, ça peut juste aider. Là.
Ben absolument, tu sais, l'ABC, c'est pas juste des infrastructures, c'est la qualité de l'encadrement des athlètes, autant du niveau, comme j'ai dit, de la performance que du niveau baseball. Puis après ça, c'est aussi le calendrier de compétition, les endroits où on les amène pour se faire voir qui leur donne vraiment une chance. Fait que ça, à mes yeux, c'est le plus important. Mais faut pas négliger que si on avait aussi des infrastructures, en effet, probablement que le développement irait encore plus vite même.
Oui, et puis recevoir des universités américaines peut-être, de recevoir des tournois, des choses. Il y a plein de choses qui sont autour de l'infrastructure, autour de l'équipe comme telle qui pourrait être intéressante pour les fans de baseball au Québec.
Absolument, absolument.
Max, on va aller du côté plus la FIDE. Cette semaine, vous avez sorti une politique de vérification d'antécédents. Je te laisse parler un peu plus de ça pour les gens qui n'en ont pas entendu parler, mais c'était partout dans les réseaux sociaux. Donc, les gens de la FIDE qui n'ont pas vu ça.
Oui, bien, allez faire vos devoirs tout de suite. Non, mais sérieusement, je pense que la politique des antécédents judiciaires est un dossier qu'on avait déjà annoncé aussi depuis un certain temps. Je me souviens au show du matin, si on revient à l'automne, où est-ce que je commençais à en parler, on se souvient de la situation qui était sortie dans les médias à un certain moment à propos de Robert Litvak. On avait à ce moment-là aussi relancé et réexpliqué au monde ce qui s'en venait pour nous. Alors, on en est arrivé évidemment avec des conclusions où est-ce qu'en effet, la semaine dernière, on a annoncé notre politique politique. Évidemment, on aurait voulu l'annoncer avant, mais vous comprendrez que c'est un dossier qui est tellement touché du côté légal que ça a été entre les mains de nos avocats, je dirais plus longtemps que je l'avais prévu. Et à un certain moment, ben c'est ça. J'ai averti nos présidents, présidentes de région de communiquer avec les associations pour leur dire « guys, on va être plus serré. On va arriver avec une politique probablement quelque part au mois de mars, là, donc plus près de la saison. On sera probablement pas près de la saison, mais là, on parle de la sécurité des enfants. Là, c'est pas une règle en lien. Oh, un petit choc vient de passer. C'est pas en lien avec une règle sur le nombre de lancers ou c'est pas en lien avec c'est quoi les formations qu'un entraîneur doit suivre pour pouvoir être dans un championnat provincial. Là, on parle de la sécurité de nos enfants et je pense que c'est primordial pour tout le monde. Alors, on a lancé la politique la semaine dernière. Je vous dirais que ça a été quand même bien accepté par une grande majorité, parce qu'encore une fois, on parle de la sécurité des enfants. Là, on parle des personnes vulnérables. On veut s'assurer. L'essence de la politique, c'est de dire à un certain moment, quand un adulte, qui soit entraîneur ou qui soit dirigeant d'un de nos organismes, va passer du temps sur le terrain de baseball avec un de nos jeunes, on va s'assurer que les vérifications ont été faites avant. C'est ça le message qu'on va envoyer à tout le monde. Puis là, on est dans une zone où est-ce que il y en a qui sont un peu pressés par le temps parce que les corps policiers font les vérifications, mais ça peut prendre des fois, il y a des endroits, ça prend 2 jours, mais il y a des endroits, ça peut prendre 2 mois et demi, ça peut prendre 3 mois. Et là, on a des membres qui se sentent un peu pressurisés par nous. C'est une décision courageuse qu'on a décidé de prendre puis de dire c'est pas possible pour nous autres qu'un jeune, que les gens qui accompagnent nos jeunes ne soient pas vérifiés, ne soient pas validés, qu'il n'y ait pas leur petit crochet là, avant de sauter sur le terrain avec nos athlètes. Ça, c'est quelque chose qu'on a décidé, qu'on faisait pas de compromis, qu'on allait de l'avant avec ça. Donc, la politique est en place présentement. Les associations sont en train de remplir les formulaires, sont en train de nous envoyer leur sentinelle. La sentinelle, ce sera la personne qui est responsable de faire la vérification. Si on fait un peu d'étymologie, sentinelle, ça peut être 2 choses. Ça peut être une vigie, une personne qui a les yeux, ce qui est la bonne définition, ou ça peut être aussi sentinelle de l'air pour les anciens. Je veux vous rafraîchir la mémoire, mais bref, tout est en train de s'installer lentement, pas vite. Puis, on va s'assurer que le 15 juin, tous les entraîneurs de baseball au Québec sont filtrés. Et le 16 juin, ben on l'a dit, les entraîneurs qui ne le seront pas seront automatiquement suspendus jusqu'à temps que leur dossier soit régulé. Puis, il y a quelque chose que je vais mettre au clair avec vous, les gars, là. Il y a 97% probablement des entraîneurs au Québec qui ont des comportements A1 et qui s'occupent bien de nos enfants. Mais s'il reste réellement 1% ou 2% qui réussit à passer à travers les failles, à passer du temps avec nos jeunes sur le terrain, ben cette politique-là va être là pour, en partie, les stopper et probablement aussi pour les décourager même de s'inscrire parce qu'on envoie un message fort, c'est « tu te fais filtrer » ou tu ne peux pas être sur un terrain. Fait que c'est un peu pour ça qu'on la met en place. Puis on est là pour accompagner puis soutenir nos associations dans cette petite période de turbulence parce que tout se passe vite. Ben, écoutez les associations, écoutez nos organismes. Hein, dans la pandémie, on a appris à se retourner vite, à se retourner sur un dixième, à faire ce qui était bon pour que notre sport parte. Ben, on vous demande encore un peu cet effort-là pour qu'on s'assure que nos enfants soient toujours en sécurité.
Justement, Max, trouves-tu que c'est le bon moment de l'implanter parce que en temps de pandémie, on est déjà bousculé par un paquet de choses. De le faire là, à ce moment-ci, on est déjà bousculé. Fait que c'est un pas dans la bonne direction pour protéger les jeunes, mais aussi, c'est un bon côté de dire, ben, on va le faire là, on est déjà en changement présentement.
Ouais, ben c'est un peu, tu as raison Antoine, puis il y a des choses dans la vie là qui, à mes yeux, on peut faire des compromis, on peut se dire, ok, on va attendre, il y a des règles. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de la catégorie 11UB avec le lanceur, où est-ce qu'on avait fait des tests, où est-ce qu'on est allé voir que avec une catapulte, il y avait plein de bonnes raisons qui faisaient que le 11UB, on devrait pas avoir de lanceur, ben on prend notre temps pour implanter ce changement-là. Il est pas encore là cette année, on va faire encore des projets pilotes pour s'assurer que c'est vraiment la bonne chose qu'on fait. Quand on parle de la sécurité des enfants, par exemple, à partir du moment où on est prêt, ben, on peut pas tout se regarder puis dire, on va attendre un petit peu. Non, il faut le mettre en place. Puis après ça, ben, on dealera puis on trouvera des solutions pour les enjeux qu'on a en chemin. Mais ça, c'est un no-brainer. Faut que ça parte.
Ouais, puis tu sais, c'est arrivé. C'est pas comme si c'était nouveau, là. Ça fait des années qu'il y a ça dans d'autres sports. Ça arrive. Il y en a, ça existe. Malheureusement, c'est arrivé au baseball dans la dernière année. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est un no-brainer, puis on va de l'avant avec ça, on l'accepte, puis on fonce.
Oui, puis tu sais, il y a des défis, mais il y a des défis devant nous autres aussi, les gars, par rapport à ça, parce que le système fonctionne à deux vitesses présentement. C'est-à-dire que on regarde les joueurs de baseball et les joueurs de soccer ne sont pas considérés comme des athlètes au sens de la loi, là, vulnérables, parce qu'ils sont dans des espaces extérieurs, parce que il n'y a pas de vestiaire comme pour la Fédération de natation ou au hockey. Donc, on a même des enjeux à un certain moment où est-ce que au niveau des villes qui n'ont pas de corps policiers municipaux qui travaillent avec la Sûreté du Québec, bien, la Sûreté du Québec n'offre plus la vérification des antécédents judiciaires pour le monde du baseball puis pour le monde du soccer. Fait qu'il y a aussi ça qu'il faut prendre en considération, où est-ce que présentement, là, il n'y a pas d'uniformité à travers le Québec dans ce dossier-là. Et clairement, on a commencé à en parler avec Sport Québec, on a commencé à en parler avec la Direction du sport et du loisir, la Direction de la sécurité, pour dire comment on est capable d'uniformiser tout ça et qu'un jeune sportif qui vienne de n'importe quel milieu ait du moins accès au même minimum de sécurité quand il va pratiquer son sport. Fait que ça ne sera pas la première fois et ça ne sera pas la dernière qu'on va en parler ensemble, les boys.
Absolument, absolument. Max, la saison 2022 s'en vient rapidement. On a parlé de la neige tantôt, mais ça s'en vient quand même. On a plein de sports à découvrir. On a le Rally Cap. Il y a des choses qui s'en viennent dans l'année, comme le défi triple jeu. Il y a plein de formations qui sont en cours pour les arbitres, pour les entraîneurs, pour les marqueurs. Est-ce que c'est encore le temps de s'inscrire à tout ça? Est-ce que c'est encore le temps de découvrir le Rally Cap? Puis, petit message pour le défi triple jeu aussi, au passage, qu'on relance cette année.
Écoute, Jean-François, la réponse à tout ça, c'est oui, non, oui, non, non. C'est-à-dire que si vous voulez inscrire au baseball, c'est encore le temps. Il y a des endroits dans le Québec, malheureusement, vous allez vous faire dire ben c'est terminé les inscriptions. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'espace pour mettre des jeunes. C'est la réalité. Il y a des villes, il y a des municipalités qui n'ont plus assez de terrain. Les terrains sont capacité maximale. Alors, il y a des endroits, c'est le même. Je vous dirais que dans la majorité des organisations, il y a encore de la place. Dans le Rally Cap, c'est encore plus simple un petit peu avec le principe du Rally Cap que vous connaissez, qui est un sport, qui est un modèle plus exploratoire, où est-ce qu'on développe les habiletés, où est-ce qu'on ne joue pas des parties, donc on n'a pas besoin de prendre un terrain pour deux équipes. On est capable d'avoir 50, 60 jeunes au parc en même temps. Donc, d'en avoir 60, d'en avoir 64 n'est pas un enjeu. Donc, si vous voulez inscrire vos enfants au Rally Cap, le timing est super bon. Si vos enfants ne sont pas encore inscrits, vous les inscrivez un petit peu plus vieux, ben comme je vous dis, il y a de la place en masse, mais ça se peut qu'il y a des associations qui vous disent « malheureusement, j'ai plus de place ». Quand ça arrive, ça, les gars, faut savoir que il y a tellement de belles collaborations entre nos gangs que ben on va essayer de trouver une place à un jeune dans une municipalité juste à côté de manière temporaire pour une année, peut-être, ou deux, si ça fonctionne pas. Puis à partir de là, on va être. Il y a de la place pour tout le monde. Fait que ça, c'est une chose. D'autres choses, Jean-François, tu as souligné le défi triple jeu. On ramène le défi triple jeu après quelques années d'absence pendant la pandémie. On le ramène sous une nouvelle forme où est-ce que ce sont les 13 ans et moins qui vont faire la compétition. Donc, on a enlevé le 15U, le 18U de la compétition. Et on a fait quelques petits changements dans les compétitions d'habileté. C'est-à-dire, exemple, la course ne sera pas du marbre au marbre, mais plutôt du marbre au deuxième but et du deuxième but au marbre. C'est les mêmes distances, vous comprendrez. Il y a quelques petits changements qui vont se faire comme ça. Le lancer sera sur la cible pour toutes les catégories dans une distance plus de lanceur que d'un relais d'un joueur du champ. Et pourquoi qu'on a amené ces changements-là? C'est qu'on est en train de s'arrimer avec Major League Baseball. Major League Baseball offre ce type de compétition-là aux États-Unis. Et après avoir discuté avec les Blue Jays, après avoir parlé avec des partenaires, il se pourrait que déjà... en 2023, le Québec soit en lice ou soit dans la bonne direction pour peut-être représenter le Canada à une compétition internationale du défi triple jeu. C'est-à-dire que au All-Star Weekend, à chaque année, MLB organise un défi triple jeu, finalement avec des gagnants de partout aux États-Unis. Ces gagnants-là sont la plupart du temps des représentants des équipes du baseball majeur. Et peut-être que ça sera nous le représentant des Blue Jays à ce niveau-là. Donc, on a décidé de faire quelques changements pour s'adapter à ça. La compétition aura lieu plus tôt, aussi avec une finale provinciale plus tôt pour s'arrimer sur la pause du match des étoiles qui est à la mi-juillet. Mais imaginez deux secondes, guys, là, qu'on envoie une délégation, là, sérieusement, ouais, à Los Angeles, à Cincinnati, à San Diego, au match des étoiles pour faire un défi triple jeu. Comment ça peut devenir une expérience extraordinaire. Fait que c'est pour ça qu'on s'est aligné comme ça. Et cette année, ben, on a même été un petit peu plus loin où est-ce qu'on a mis la cotisation, parce que normalement, il y avait un montant d'argent qui venait à la fédération, un à la région quand les jeunes faisaient le défi triple jeu. Mais cette année, on l'a mis gratuit. On veut que le plus de jeunes y participent, que l'engouement soit bon et que l'année prochaine, ben, quand on aura accès à des compétitions plus grandes, même que le niveau provincial, ben, qu'on soit prêt.
Est-ce que, le changement a été réfractaire? T'sais, souvent, on est réfractaire au changement, mais je regarde tout le travail de la Fédé qui a été fait avec ça. JF qui a travaillé fort aussi également pour placer bien les choses. Sens-tu que les changements qui ont été apportés, Max, vont mener à quelque chose d'encore mieux et permettre justement aux jeunes d'aller au All-Star Game, par exemple?
Oui, ben, je pense que c'est notre job de faire des meilleures choses à chaque année. Je vais vous donner un exemple. Quand les jeunes vont arriver cette année à la finale provinciale, une des choses qui va être différente, c'est qu'en plus de prendre exemple, la distance de la balle frappée, on va ajouter à ça la vélocité au contact. On va avoir un radar qui va prendre, puis il va avoir une petite équation qui va être faite où est-ce que la balle frappée, on va aller mesurer sa distance, mais on va aussi rentrer la vitesse du bâton là-dedans. Quand on va parler du lanceur, ben ce sera la même chose. Il va avoir encore une cible, donc la précision va être importante, mais on va aller mesurer la vitesse des lancers des enfants, parce que ce qu'on veut dans une compétition, où est-ce qu'on veut déterminer techniquement les meilleurs athlètes dans un mouvement spécifique, c'est-à-dire frapper, lancer ou courir, ben on va aller mesurer différentes choses pour faire ça. Donc, avec une cible, où est-ce qu'on voit la précision, on souhaite que les enfants ne se retiennent pas pour essayer d'atteindre la cible. On veut que les enfants soient précis, mais laissent aller la balle. Donc, on va même ajouter des petites variances comme ça qui, je pense, en 2022, 2023, sont nécessaires. On est rendu à cette étape-là. On est capable de prendre ces données-là. Donc, on va l'améliorer. Fait que oui, puis il n'y a pas beaucoup de gens réfractaires au changement à ce niveau-là. Antoine, ça se passe quand même assez bien. Puis je pense que les gens avaient hâte de recommencer le défi triple jeu après deux ans d'absence. Et ceux qui n'aiment pas le défi triple jeu, ben le faisaient déjà pas. Alors, c'est pas un enjeu, puis on force pas personne à le faire. C'est juste une autre initiative qui rend les choses le fun un peu pour tout le monde.
Si tu peux représenter peut-être le Canada dans une autre compétition à l'international, là, je pense que ça va donner peut-être le goût aux gens qui n'avaient pas le goût de le faire, de dire, ben j'ai peut-être un point supplémentaire pour y aller. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dirait si je ne tentais pas de le faire.
Juste pour faire rêver, Max, tu sais, les gens du Québec, parce que là, le Canada, c'est large, là, ceux qui ne le savent pas.
De notre région, paraît.
Fait que ceux qui sont dans l'Ouest, je sais, qui étaient associés aux Mariners de Seattle, donc ils faisaient le défi triple jeu là, puis ceux qui étaient dans l'Est du Canada étaient associés aux Red Sox, si je ne me trompe pas. Donc, si c'est encore comme ça, le Québec va être associé à l'Ontario. Donc, ça vient de réduire, ça vient d'augmenter les chances de nos Québécois de passer dans les meilleurs au Canada. Et en plus, juste pour faire rêver encore une fois, ben le match des étoiles cette année est à Los Angeles. Se déplacer à Los Angeles devant une foule, parce que c'est au All-Star Game, une foule qui est pleine, qui a du monde. Donc, d'aller lancer ses balles, frapper des balles, puis courir devant une foule de 70 000 personnes, ça devient intéressant aussi.
Ah, mais tu sais, Jeff, juste aller dans cette petite anecdote, je me souviens, il y a trois semaines, on est dans mon bureau, il y a toi, il y a Pascal Jean et moi, puis j'appelle les Blue Jays de Toronto, l'organisation évidemment, puis les gens qui sont responsables un peu du baseball amateur, tu sais, puis je leur lance un peu cette idée-là. Et je me souviens encore de toute notre face quand Jeff, le coordonnateur des Blue Jays, yeah, why not? Puis après ça, je fais le calcul de dire, ben en 2019, il y avait peut-être 20 000 jeunes qui faisaient le défi triple jeu au Québec, puis honnêtement, d'après moi, à travers le Canada, il doit en avoir peut-être au total 21 500. Fait que là, j'ai commencé à faire des mathématiques, puis je me souviens, j'étais dans le bureau, puis là, je regardais JF, je regardais Pascal. Shit, si on est capable de le faire cette année, ça veut dire que les chances sont vraiment bonnes que ce soit un kid du Québec qui va s'en aller à Los Angeles. Puis là, on a commencé à capoter. Bien évidemment, tu sais, quand on parlait de pas brusquer tout le monde, là, ça vient très vite, le match des étoiles à Los Angeles. Fait qu'on a décidé de repousser. J'espère que l'année prochaine, ça sera pas à Cincinnati. Non, ils l'ont fait une couple d'années. Ça va être une belle place. Mais, tu sais, sérieusement, les chances sont réelles. Puis, c'est un peu ce que j'aime de ma job. Puis, ce qu'on aime, nous, à l'équipe, c'est d'essayer de sortir les sentiers battus. Oui, il faut mettre les règles en place, s'assurer que le baseball est bien joué. Mais après ça, qu'est-ce qu'on peut faire de le fun qui va faire triper des enfants? Puis, écoutez, je m'imagine encore avec une petite famille qui descend à Los Angeles, on trouve un moyen, les dépenses sont payées, c'est un voyage de rêve, puis on raconte son histoire là-bas, ça aurait été exceptionnel, ben on le fera l'année prochaine.
Ah oui, absolument, absolument. Max, le temps passe super vite. J'ai 2-3 sujets que je veux te lancer. On vient de parler de la saison 2022. Dans une saison de baseball ou même dans les autres sports, on peut le dire comme ça, il y a tout le temps des bénévoles qui s'impliquent à chaque année. S'il y a des gens qui veulent s'impliquer, parce qu'il y en a sûrement d'autres là, qui veulent devenir des nouveaux bénévoles, puis on en a besoin à chaque année, parce qu'on dirait que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, puis tu sais, tant mieux. Mais c'est quoi l'importance des bénévoles pour Baseball Québec?
Ben, les bénévoles, si on n'a pas ces gens-là, le sport amateur, le baseball amateur ne peut pas fonctionner, point à la ligne. On n'est pas dans une société présentement qui est prête à investir, disons juste dans le baseball, 40, 50, 60 millions pour avoir des gens qui sont rémunérés à travers toutes les municipalités pour s'occuper du baseball. On est extrêmement chanceux d'avoir des passionnés de la balle. C'est sûr et certain qu'il en manque toujours. Mm-hmm. J'ai l'avantage présentement de redécouvrir, puis je vais citer je vais dire un ami, Yann Goulet, qui est le président de l'Association de baseball mineur de Mascouche où je suis, puis évidemment, mon deuxième joue au baseball, donc il y a 7 ans cette année, et je vais m'impliquer comme entraîneur, je vais essayer de les aider. Mon filtrage est fait. D'ailleurs, Yann est à jour pour les 3 prochaines années, mais tu sais, je me souviens d'échanger, j'échangeais par texto avec Yann sur des idées que j'avais, puis tout, puis tu sais, Yann m'a écrit, puis je le cite, « Max, je suis content que tu reviennes sur le plancher des vaches. » Ça m'a fait rire, mais en même temps, ça m'a ramené aussi à la base où est-ce que je suis sur les groupes Messenger avec les nouveaux entraîneurs, avec les gens qui veulent s'impliquer. Il y a les camps de remise en forme qui débutent présentement, pas les camps de sélection, mais de remise en forme où est-ce que les jeunes peuvent pratiquer. Puis là, je vois les papas se manifester. « Hey, je suis disponible pour aller aider à tel moment. Là, je peux pas, mais je vais être là dans 2 semaines. » Puis je trouve ça fantastique. Fait que, évidemment, je souhaite avoir et je souhaite que nous ayons le plus de bénévoles possible parce que plus on en a, moins le fardeau sur chacun de nos bénévoles est grand parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais c'est ça, je suis en train de redécouvrir quelque chose que je trouve fabuleux en m'impliquant aussi dans mon association, en voyant les boys travailler, en voyant des mamans vouloir sauter sur le terrain aussi, clin d'œil à Vanessa. Je suis super content de voir ça. Fait que continuez à vous impliquer. Puis ceux qui rentrent dans le système, là, les parents, il faut les accrocher puis les amener sur le terrain le plus vite possible.
Absolument. Là, tu as parlé de plancher de vache. J'ai une petite question qui a été posée par Dan Richard sur Facebook. Puis il demande si tu es toujours disponible pour aller dépanner avec les Giants de Repentigny les dimanches soirs à 8h45.
Écoute, ça me fera plaisir d'y aller, Dan. Si je le sais un peu à l'avance, il n'y a pas de problème. Je vais être sur le terrain puis je vais essayer de représenter ton équipe du mieux que je peux.
C'est dit. Mais c'est enregistré aussi, par exemple.
Hein? Ouais.
Pas ça. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire.
Max, je veux conclure le show de ce matin en te félicitant, toi et plusieurs autres membres. Écoute, il y a tellement de monde, je suis vraiment content, mais plusieurs personnes de l'ABC, plusieurs gens qui nous entourent à Baseball Québec, mais le fameux top 25 de Ben Rioux qui est sorti hier, tu es dans le top 5 encore cette année, en 4e position exactement. C'est quoi pour toi ce sentiment d'être dans le top 5, dans le top 25? Ben, je sais très bien que les gens qui sont dans un top 25 comme ça, ils vont toujours dire « on fait pas ça pour ça ». Puis je sais que tu le dis, puis tu vas mettre l'équipe de BQ en avant-plan aussi, puis c'est très legit. Mais il y a quand même du positif qui sort de ça. Ça veut dire que les gens reconnaissent ce que tu fais. Ça veut dire que les gens reconnaissent ce que Baseball Québec fait, ce que l'ABC fait. Donc, ton sentiment général par rapport à tout ça?
Ben, écoutez, tu m'as enlevé des mots de la bouche parce qu'en effet, j'allais dire, je veux remercier mon équipe. Et non. mais tu sais, Jean-François, dans mon siège à moi, c'est encore plus réel parce que, évidemment, quand je vois Marc-Antoine Bérubé dans le Absolument. Top 25, je sais que Marc-Antoine touche à des athlètes one by one. Mm-hmm. Quand je dis puis que j'ai envie de remercier mon équipe et les gens qui travaillent pour ma nomination dans le top 5, c'est basé sur le fait que moi, je suis un porte-parole. Je peux passer la bonne nouvelle. Je peux être passionné quand je parle. Je peux convaincre des gens, mais ça reste quand même que ceux qui mettent en place le défi triple jeu, le programme Rally Cap, ceux qui revoient comment on peut faire des championnats provinciaux, ceux qui travaillent sur mettre en place des politiques comme celle des antécédents judiciaires, qui, je veux dire, c'est pas le gros glam, là, mais c'est nécessaire pour qu'une une fédération fonctionne bien. Ben moi, c'est pour ça que c'est important de le dire, parce que ces gens-là en arrière de moi travaillent puis mènent chaque dossier. C'est eux qui ont les mains dans la pâte. Maintenant, évidemment, quand je vois le top 25, ce qui me fait triper là-dedans, c'est que le baseball est encore assez populaire et encore assez fort pour que un journal aussi grand que celui du Journal de Montréal, le Journal de Québec, publie un top 25. Il y a plein d'autres sports au Québec qui ont aussi un impact sur les jeunes, qui n'ont pas cette visibilité-là, qui devraient peut-être l'avoir, mais là, il n'y aurait plus de fin à tout ça. Fait que je suis content de voir que notre sport est encore assez populaire pour qu'on soit là. Puis évidemment, ben, de voir les noms, de voir des nouveaux noms, je suis content aussi de voir des nouveaux noms rentrer dans le top 25 parce que c'est important qu'on prépare la relève un jour. Moi, je ne serai plus directeur général. Il y a quelqu'un d'autre qui va embarquer dans ce siège-là. Moi, ma job, ça va avoir été d'amener la Fédé le plus loin que je peux pour que le prochain l'apprenne et l'amène le plus loin possible. Donc, quand je vois dans notre top 25 des nouveaux noms, des jeunes, je suis content, sans minimiser la part des plus vieux comme moi ou des plus vieux que moi, qui est encore présent, mais je suis content de voir un mix s'installer parce que faut que le baseball reste en santé puis continue de grandir pour les 40, 50, 60 prochaines années, pas juste présentement.
Est-ce que le baseball est en santé selon Maxime Lamarche au Québec?
Je pense que le baseball est en santé au Québec présentement. Je pense qu'on a, comme toutes les fédérations, on a des grands défis devant nous encore, puis on va toujours en avoir. Puis notre rôle, c'est aussi de nous remettre en question, de second-guesser, de se challenger pour être encore meilleur. Mais je pense que le baseball au Québec est en santé.
Je me suis fait poser la question hier parce que j'ai mentionné être très fier de voir autant de gens de BQ, des gens de l'ABC. Puis on m'a dit, ben c'est normal, vous êtes du baseball, puis c'est le top 25 des Québécois dans le milieu du baseball. Comment est-ce que tu expliques l'importance d'avoir des gens de BQ, de l'ABC, de l'entourage de Baseball Québec dans un top 25 comme ça?
Bien, tu sais, si on prend la mission de Baseball Québec qui est de mener, qui est de développer, de promouvoir, de créer une certaine équité à travers le Québec dans le baseball, ça serait désastreux si Baseball Québec n'était pas là. À un certain moment, je pense qu'on met en place les visions, on met en place les règles pour s'assurer qu'un jeune, autant de l'Abitibi que de la région de Montréal, ait accès à du baseball de qualité, ait accès à des entraîneurs de qualité, ait accès à un baseball qui coûte peut-être pas si cher que ça, même si c'est toujours trop cher. Fait que, à mes yeux, ça serait désastreux si on n'avait pas des gens de Baseball Québec dans le top 25. Et j'ai pas l'habitude de commenter ce top-là. Je suis juste vraiment content, mais il y a un nom qui, à mes yeux, devrait être là, un travailleur acharné de notre gang qui passe du temps, qui a un impact immense sur ce qui se passe présentement dans le baseball de haut niveau, dans la structure de A, 3A, au niveau de l'Académie de baseball du Canada, autant du volet des filles et des hommes, c'est Sylvain Saint-Don. Fait que, c'est peut-être la seule déception que j'ai de ne pas voir le nom de cette vieille personne-là dans le top 25 pour ce qu'il fait, mais en effet, c'est tout à fait logique que Baseball Québec soit là. Je reviens sur, si on n'est pas là, ben, clairement, ça voudrait dire que la fédération ne fait pas sa job au Québec.
Absolument, absolument. Max, dernier petit mot, tu as vu Abraham Taureau qui va être dans le show cette année, des Édouard Julien, des Charles Blanc qui performent et qui sont vraiment sur la clôture présentement.
Deux circuits pour Charles Blanc d'ailleurs depuis le début de la saison, oui. Ça va bien?
On a vu Édouard aussi que...
Paul est dans mes amis Facebook présentement, alors clairement, je vois les parties de Charles passer dans mon fil de nouvelles, je suis très, très content, puis moi, ça me rend extrêmement fier d'avoir les petits gars de chez nous se rendre jusqu'au show, même ceux qui ne s'y rendent pas, c'est exceptionnel. Il faudrait un jour leur faire les mathématiques, là, le par habitant, à savoir c'est quoi le pourcentage de joueurs qui sont capables de s'y rendre, et ce qu'on fait, c'est wow. Puis j'avais la discussion avec Jean-Philippe Roy la semaine dernière. Jean-Philippe nous donne un coup de main à organiser le voyage de l'ABC en Arizona. Jean-Philippe a trois joueurs de son sport-études, des anciens joueurs de son sport-études, des canonniers qui sont dans le baseball professionnel présentement. Et on avait la discussion sur comment tout le monde est fier, on a une appartenance, un sentiment d'appartenance très, très, très fort envers nos petits Québécois sur le terrain. Même ceux sur l'équipe nationale, c'est beau, puis ça me rend extrêmement fier de voir tout ça présentement.
Ça fait deux fois que je dis en terminant, dernière question, mais je le redis encore parce qu'on t'a pas souvent, Max, puis là, il est passé 9h, mais il faut quand même. C'est quoi l'importance d'un voyage en Arizona pour l'ABC présentement? Parce que c'est quand même complexe à organiser, c'est beaucoup de joueurs, c'est des sous, c'est trois semaines dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien, mais au final, c'est sûr que c'est positif pour les joueurs, pour l'organisation, pour l'ABC et tout. À quel point c'est positif de faire ça, justement, se donner ce trouble-là pour faire ce genre de voyage?
Encore là, tu sais, je veux dire, si on veut développer des athlètes de haut niveau, faut les entraîner physiquement, faut les entraîner au baseball. Puis les entraîner au baseball, l'hiver, c'est bien difficile de faire ça au Québec, de les faire compétitionner aussi, c'est extrêmement difficile. Fait que un voyage comme celui qu'on organise en Arizona, donc les joueurs partent du 16 au 28 avril en Arizona, ça sert à plusieurs choses. D'un, il y a une partie camp d'entraînement parce que les gars vont recommencer à faire du baseball à l'extérieur. Là, ils ont été à l'intérieur pendant plusieurs mois. Fait que il y a ce volet-là, il y a le volet aussi d'aller compétitionner contre les voisins du Sud, d'aller voir où on est rendu dans notre développement quand on affronte des joueurs du Sud, autant de notre âge que professionnels. Parce que vous savez, l'ABC est un des seuls programmes qui n'est pas national, qui a la chance d'aller jouer contre du baseball professionnel organisé, donc des équipes des ligues mineures. Donc, on va aussi voir comment nos gars se comportent contre des professionnels ou des joueurs de leur âge d'un pays où, évidemment, on ne se fera pas de cachette, les joueurs de baseball sont pas mal bons. Ouais. Donc, ça a un petit peu ce rôle-là. Puis évidemment, ben, c'est aussi le kick-off, le start-up pour la belle saison. Donc, quand les kids vont revenir, ben, après ça, on saute à l'extérieur sur les terrains du Québec. Ils seront, je l'espère, prêts. Peut-être pas sur la Côte-Nord, mais dans la région ici, ils seront prêts. Et après ça, ben, on pourra commencer le calendrier de compétition. Mais ça joue plusieurs rôles, mais c'est important que nos athlètes de haut niveau puissent fouler le terrain de baseball durant l'hiver aussi.
Bien d'accord. Là, c'est vrai, c'est terminé. On a passé.
Yeah, on continue 20 minutes encore, les boys. J'ai du fun le matin. On n'a même pas encore fait de on n'a même pas dit de niaiserie à Antoine qui vient de commencer à travailler avec nous autres. Là.
T'as le temps. Martin, il ne m'a pas dit que c'est le temps de closer le show encore dans mes oreilles. Fait que t'as le temps.
Non, écoutez, mais je vais quand même, moi, je vais me permettre de conclure en souhaitant la bienvenue à Antoine dans notre équipe. Hein. Je l'ai fait au privé dans notre petite gang, mais là, publiquement, je me permets de le faire. Antoine, pour ceux qui ne le savent pas, quand je jouais pour les Capitales et quand j'ai travaillé pour les Capitales, il était notre petit bad boy. Bad boy.
Ouais.
Et notre histoire a commencé là. Puis tu vois, je vais falloir que je close parce que bientôt, ma fille va dire papa souvent. mais je suis content de t'avoir dans l'équipe, Antoine. L'histoire est vieille. Bonjour, Léa, donne-moi deux petites secondes. Il est malade. Et de l'autre côté, ben, j'en profite aussi pour souhaiter bon congé de maternité à Audrey. Tout le monde qui nous entend, si vous voulez envoyer un petit mot pour lui souhaiter un bon congé, c'était hier sa dernière journée. Donc, à partir d'aujourd'hui, elle est en congé. Bientôt, elle va avoir un beau petit bébé. On vous tiendra au courant, mais on est extrêmement content pour elle. Fait qu'elle va être à la maison, s'occuper de son enfant. Fait qu'on a la chance d'avoir Antoine avec nous pour une belle année. Puis, qui sait, peut-être qu'à un certain moment, ben, Antoine prendra la place de GF. On verra.
mais merci pour les bonbons, Max. Puis, effectivement, bon congé à Audrey.
The clock is ticking au-dessus de ma tête, de ce que je viens de comprendre. Merci les boys, c'est super. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci les boys, c'est super cool ce matin. Bon week-end.
Allez les gars, je vais aller voir Léa est malade. Bye les gars.
Salut.
Membre de la famille H2O Web Media.